contient plus de 160 articles d'histoire militaire, mais destiné au grand public, et qui a reçu plus d'un demi-million de visiteurs à ce jour. Mais avant de recevoir mon invité, tout d'abord, vos actualités historiques. Alors, ce mercredi 13 novembre 2013 à 17h à l'Anglicane de Lévis, il y a une conférence intitulée « Lévis est-elle une ville de culture? » Une conférence donc de l'historien de l'art et scénariste Michel Lessard, qui est un communicateur culturel bien connu du grand public, qui a reçu de nombreux prix, de nombreuses distinctions. Michel Lessard, qui vient d'ailleurs de faire paraître le livre « Québec éternel, promenade photographique dans l'âme d'un pays ». Alors, c'est une conférence qui est gratuite à l'Anglicane dans le cadre des activités soulignant le 35e anniversaire de diffusion culturelle de Lévis. Alors, je vous rappelle, c'est ce mercredi 13 novembre à 17h à l'Anglicane. C'est gratuit, mais la réservation est requise. Alors, on peut réserver notre place au 418-838-6000. 418-838-6000. Une autre conférence à saveur historique, le lendemain, le jeudi 14 novembre. Une conférence qui s'intitule « L'étonnante survivance du régime seigneurial ». Le régime seigneurial, c'est un thème de recherche qui est particulièrement cher à Benoît Grenier, qui est invité comme conférencier à cette occasion. Benoît Grenier, qui est originaire de Québec et qui est maintenant professeur à l'Université de Sherbrooke. Il est auteur de plusieurs livres, dont « Une brève histoire du régime seigneurial » qui est paru chez Boréal l'an dernier. Comme vous le savez peut-être, le régime seigneurial, c'est le système qui prévalait en Nouvelle-France. Il a survécu à la conquête, mais il a été aboli officiellement en 1854. Pourtant, c'est un système qui va persister très longtemps dans le paysage culturel québécois. Donc, la conférence qui promet d'être très intéressante de Benoît Grenier va être présentée ce jeudi 14 novembre à 19h30. Donc, à 19h30 à la Bibliothèque Saint-Jean-Baptiste sur la rue Saint-Jean à Québec. C'est présenté par les services historiques 6 associés en collaboration avec l'Institut canadien et l'Université de Sherbrooke. Encore là, c'est gratuit, mais les places sont limitées. Alors, il est fortement suggéré de réserver. Et la réservation, on peut la faire au 418-641-6798. Il y a aussi un événement qui bat son plein, un événement très particulier actuellement à Québec, c'est l'événement Muséomix. Donc, c'est le Musée de la civilisation qui accueille cette espèce de mouvement technoculturel qui permet à des spécialistes de contenu, des historiens, des muséologues, mais aussi des pros des nouvelles technologies, des programmeurs, des geeks de toutes sortes, de travailler ensemble sur des projets de façon intensive pendant 3 jours. Ce qui est intéressant avec Muséomix, c'est que ça a lieu dans plusieurs villes simultanément, donc au sein de grandes institutions muséales. On en a, par exemple, présentement dans le Nord-Pas-de-Calais, en France, à Laon, à Grenoble également, à Nantes, à Paris, à Shropshire en Angleterre et à Québec, la seule destination, on pourrait dire, de Muséomix en Amérique du Nord. Les équipes de créateurs, donc, travaillent intensément pendant les 3 jours et sont appelées à remixer des thématiques pour les présenter de manière nouvelle. Le public va être invité à venir voir les prototypes ce dimanche 10 novembre à partir de 15h ou en journée toute la semaine du mardi 12 novembre au dimanche 17 novembre. La semaine prochaine, j'aurai d'ailleurs le plaisir de recevoir Anna-Laura Baz, qui coordonne l'événement au musée cette année. Alors, n'hésitez pas à communiquer avec moi pour m'informer de vos activités à saveur historique. Vous pouvez toujours trouver facilement la page de l'émission « Tu parles d'une histoire » sur Facebook ou par l'entremise du site web de CKIA au www.ckiafm.org. Donc, avant d'aborder notre thématique de la semaine, notre thématique sur la guerre, on va y aller avec une petite pièce à boire, parce que c'est connu, les militaires sont des gens qui aiment, disons, lever le coude. Alors, on va y aller avec une chanson qui a probablement toutes les propriétés pour remonter le moral des troupes, une chanson qui s'appelle « Vive le pinard ».
Sur les chemins de France et de Navarre, le soldat chante en portant son bazar, une chanson authentique et bizarre, dont le refrain est « Vive le pinard !» Et de la pinasse, c'est de la pinasse, ça réchauffe là où que ça passe. Vas-y pinasse, remplis mon quart, vive le pinard, vive le pinard. Je le marmot, vois le lait pour ta mais songe que plus tard, cette boisson te paraîtra sa mère. Un vrai poilu ne voit que du pinard. De la pinasse, c'est de la pinasse, ça réchauffe là où ce que ça passe. Vas-y pinasse, remplis mon cas, vive le pinard, vive le pinard. Sur le talus, renverse ta bergère, de l'ennemi, renverse les remparts. Dans les boyaux, fous-toi la gueule par terre, mais ne va pas renverser le pinard.
Avec moi,
le pinard, c'est de la pinasse, ça réchauffe là où ce que ça passe.
Vas-y, pinasse.
Vive le pinard! C'est une chanson qui apparaissait sur l'album Chansons historiques de France, des pièces de 1914 à 1918. Donc, c'est une chanson qui a été créée par Charles-Joseph Pasquier, alias Bach, qui était un chanteur comique troupier. C'est une pièce qui a été créée vers 1915. Comme entendu, c'est une des nombreuses adaptations qui ont été faites par la suite. Parce que je vous fais grâce de l'enregistrement comme tel du début du siècle. C'est souvent de très, très vieux disques qui grigent beaucoup. Alors, cette semaine, j'ai le plaisir, comme je vous le disais, de recevoir l'historien militaire Carl Pépin. Alors, Carl Pépin, bonjour.
Bonjour, Catherine. Je voudrais juste te remercier. Félicitations pour ton émission et de me recevoir aujourd'hui. Je l'apprécie beaucoup.
Mais je t'en prie. Je suis très, très honorée de te recevoir aujourd'hui. Alors, Carl, avant de débuter comme tel dans le contenu, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, ton parcours d'historien? Comment t'en es venu à t'intéresser à l'histoire militaire? Par quel cheminement t'en es arrivé là?
Bien, écoute, c'est une bonne question. C'est pas la première fois qu'on me la pose. Comme je réponds souvent, en fait, il y a deux accidents de parcours un peu. Le premier, c'est, je pourrais dire, évidemment, les influences familiales. Nous, les Pépins, en fait, on est de Saint-Martin en Beauce et de la région de Saint-Georges. J'ai beaucoup de membres de ma famille qui ont participé à peu près à toutes les guerres du Canada, à l'exception peut-être de la guerre de Corée. Et j'inclus l'Afghanistan là-dedans. Par exemple, j'ai un grand-oncle qui a fait la guerre de 14-18, un grand-père qui a fait le débarquement de Normandie, un de ses cousins qui a été tué en Normandie aussi avec le régiment de la Chaudière. Alors évidemment, quand on grandit là-dedans, on se fait raconter les histoires de guerre, bien ça donne le goût d'en savoir plus. Et pourquoi je me suis intéressé à l'histoire militaire, je sais pas si tu te rappelles, dans les années 80, ben moi j'ai 35 ans, quand j'étais jeune, il y avait un magazine qui s'appelait Zip, ZIP. Mm-hmm. Et mes parents m'avaient abonné et à un moment donné, j'avais gagné dans une des revues une bande dessinée qui s'appelait Les Tuniques Bleues. Qui est une bande dessinée française sur fond de guerre civile américaine. Et j'étais fasciné par la couleur des uniformes, la beauté, les belles charges de cavalerie. Et ça m'a beaucoup impressionné. Et si bien qu'à un moment donné, en vieillissant, au début du secondaire, j'ai découvert par hasard un livre dans la bibliothèque de l'école où on montrait des photos d'une autre guerre qu'on appelait la guerre de 14-18. J'avais aucune idée c'était quoi. Et je voyais des soldats écrasés dans la paroi des tranchées sous les bombardements. Et pour moi, c'était pas ça, la guerre. La guerre, c'était le sabre au clair, les beaux uniformes, les belles charges, la guerre en dentelle, comme certains diraient. Et j'ai voulu en savoir plus. Pourquoi les soldats s'enterraient. J'ai finalement rapidement compris pourquoi. Alors, petit à petit, je me suis intéressé à cette guerre qui, pour moi, brisait toutes les conventions de ce qu'aurait dû être la guerre selon la terminologie de l'époque napoléonienne, un peu. Et voilà, donc, depuis une vingtaine d'années, moi, j'étudie activement et j'écris là-dessus.
Oui, parce que c'est une spécialisation que tu as abordée comme historien, mais aussi comme, si je ne me trompe pas, comme reconstituteur historique. Peux-tu nous parler un peu de ça? C'est quelque chose qui interpelle souvent le grand public. On se demande c'est quoi?
C'est ça, mes reconstitutions historiques. C'est vrai qu'il y a deux types de pensées, t'aimes ou t'aimes pas ça. Donc, même parmi les historiens académiciens comme toi et moi, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre et tout. Moi, j'avais pas vraiment d'opinion, mais ce qui est arrivé, c'est que en 2006, la CBC, Radio-Canada, avec l'entreprise Galafilm, c'était les frères McKenna, en fait, qui sont des documentaristes connus, qui font des documentaires d'histoire militaire essentiellement. Ils avaient fait un concours où ils voulaient reconstituer un film qui s'appellerait La Grande Guerre, qui rappellera un peu le 90e anniversaire de la bataille de Vimy et de la participation canadienne à la Première Guerre mondiale. Mm-hmm. Mais il y avait une condition pour être un figurant historique, pour reproduire les scènes de bataille et de vie dans les tranchées. Il fallait avoir un ancêtre qui était combattu à cette époque-là.
Un lien organique avec le conflit.
Voilà. Et moi, j'en avais un par la force des choses et les 149 autres personnes qui ont été là en avaient un aussi. J'ai appliqué sur la job, comme on dit. J'ai obtenu et ça a été, dans le fond, on a reproduit... nous, dans le fond, notre unité, nous étions ce qu'on appelait le 22e bataillon canadien-français, qui est le Royal 22e régiment. Et moi, j'étais ce qu'on appelle un lieutenant, donc j'étais chef de peloton. Et on leur a produit des batailles, comme la bataille de Courcelette, entre autres, la bataille de Vimy. Et ça a été assez difficile, parce que c'était, ce qui est difficile quand on fait de la reconstitution historique, il y a beaucoup de plans séquences. C'est-à-dire que quand on fait une attaque, entre guillemets, il n'y a pas un take-two, on ne la recommence pas. Les films de guerre, c'est pour ça qu'on demande souvent à des soldats professionnels de jouer le rôle de reconstructionniste parce que c'est quelque chose de très difficile physiquement à faire. Et nous l'avons fait pendant un mois et on a expérimenté un peu la vie de nos ancêtres et un peu par la force des choses, ben, ça m'a donné une autre idée de ce que peut être, si on veut, la boue des tranchées de la guerre de 14-18, d'avoir à creuser, poser du barbelé, se faire dire par nos hommes, « Ouais, lieutenant Pépin, pourquoi vous nous demandez de poser du barbelé à soir? On vient d'en poser hier. Oui, mais il n'est pas posé à mon goût. Vous allez le reposer pour arrêter les Allemands. » Donc, c'était quelque chose d'assez particulier. On a bien aimé ça quand même. Voilà.
Oui, c'est une autre façon de vivre l'histoire, finalement, parce que des fois, le grand public peut voir ça puis prendre ça un peu comme un spectacle. Sans, il y a une dimension, évidemment, spectacle, mais à la base, c'est fait avec beaucoup de sérieux, justement, avec beaucoup de recherche. Le fait d'incarner un lieutenant comme ça, c'est parce que ton ancêtre direct était lieutenant ou c'est un hasard?
C'était plus un hasard, en fait. C'est qu'il y avait une scène où... parce que Justin Trudeau, qui est le chef du Parti libéral du Canada, était un des, il incarnait le rôle du major Talbot Papineau, qui était un des cousins d'Henri Bourassa du Devoir. Le major Papineau était officier au front, donc Trudeau l'incarnait. Et à un moment donné, il fallait faire une scène de bridge, puisque moi, j'étais simple soldat au début.
Okay.
Et j'étais pas promu officier, rien. Je pense pas. J'étais un troupier comme n'importe quel autre soldat du 22e.
Une augmentation de grade.
Ben, ils ont compris que j'étais en rédaction de presse. Ils ont vu que je connaissais un peu l'histoire militaire. Ils sont, les officiers sont venus me voir. Toi, t'es rendu lieutenant, là. Fait que, OK. Oh. Là, il a fallu que j'apprenne le code de discipline militaire de l'armée britannique, comment gérer un peloton et tout ça. Et j'étais censé faire une scène avec Trudeau. On était censé jouer au bridge dans les tranchées. Et j'ai attendu une douzaine d'heures dans les tranchées, tout seul, dans mon gourbi, avec la boue et tout. Trudeau s'est jamais présenté pour la scène. Fait que moi, excuse le terme, comme un beau cave, j'attends dans les tranchées avec mes hommes. Tu sais, j'avais tout mon uniforme, mon casque, mon revolver, tout le kit. Et il est jamais venu. Fait que j'ai pris ma routine, puis ils m'ont laissé mon grade de lieutenant jusqu'à la fin. Fait que voilà comment j'ai été promu.
Fait que t'as failli jouer au bridge.
Exactement.
Avec Justin Trudeau dans les tranchées.
Et je tiens à préciser que je ne sais pas jouer au bridge. Alors.
Puis ça aurait vraiment été une reconstitution.
Tout à fait.
Ouais.
Une reconstitution manquée, si on veut.
Ouais, ben finalement.
Ouais.
Eh bien, c'est intéressant. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes thèmes de recherche proprement dit? Donc, c'est quoi les sujets de prédilection là, que tu vas aborder en ce moment comme historien?
En ce moment, comme historien professionnel, ce qui m'intéresse beaucoup, évidemment, comme de plus en plus de gens, et je suis très content là-dessus, c'est évidemment l'histoire militaire du Québec dans le cadre canadien, à savoir qu'est-ce que nos militaires, par exemple, ont vécu sur les champs de bataille. Il y a, tu connais le langage, il y a un vide historiographique, il y a une lacune au niveau de l'état de la recherche en ce qui a trait aux grandes batailles auxquelles les soldats québécois et canadiens-français ont participé, d'une part. D'autre part, je m'intéresse beaucoup aussi à l'histoire des pratiques de la guerre à toutes les époques. Comment les soldats vivaient, comment ils combattaient, la vie quotidienne et tout. Et finalement, ben, tout bon historien des pratiques de la guerre s'intéresse par la force des choses au rapport entre l'armée et la société. Donc, les rapports civilo-militaires un peu, à travers, encore une fois, toutes les époques, ça, je m'intéresse beaucoup là-dessus. Évidemment, j'ai un intérêt peut-être un peu plus prononcé pour l'Europe 19e, 20e siècle, et évidemment, l'histoire
très,
militaire
très riche,
du Canada. Mais je vais m'intéresser autant à l'histoire de l'armée romaine, par exemple, il y a 2000 ans, qu'à l'histoire de ce que les militaires ont vécu en Afghanistan ou en Irak d'une période récente. Moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est l'histoire des pratiques de la guerre, et c'est mes thèmes de prédilection.
Je te remercie, Carl. On va aller un peu en musique et on va revenir ensuite pour discuter un peu plus précisément du livre que tu viens juste de publier, qui est encore tout chaud, sorti des presses. Donc, on va aller en musique avec une pièce qui s'intitule « La Madelon », qui a connu, elle aussi, beaucoup d'interprétations successives au fil des ans, mais on entend ici la version de Lynn Renaud.
Mes amis, aujourd'hui, 15 juillet 1915, on peut affirmer que la guerre touche à sa fin.
C'est lu, c'est dans les journaux.
C'est vécu.
Ce n'est plus qu'une question d'heures, de minutes, dit-on. Dans les milieux bien informés, on pense que la paix, d'ailleurs, peut être... Seulement, voilà, le coût de la vie a encore augmenté. Enfin, ces mois-ci, l'essence qui valait 0,90 francs le kilo en janvier dernier se trouve sur les marchés ce matin à 1 franc. Il y a des encombrements monstres dans Paris. Hier soir, on pouvait observer un bouchon de 150 mètres entre la Madeleine et la Concorde. Il est question de réduire la vente des automobiles. C'est pas réjouissant tout ça. Hein? La Madeleine vient nous servir à boire.
Pour le repos, le plaisir du militaire, il est là-bas, à deux pas de la forêt. Une maison au mur tout couvert de lierre. Autour Louroux, c'est le nom du cabaret. La servante est jeune et gentille. Nous en rêvons la nuit, nous y pensons le jour. Ce n'est que Madelon, mais pour nous c'est l'amour. Quand Madelon vient nous servir à boire, sous la quenelle, on frôle son jupon. Et chacun lui raconte une histoire. Une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas sévère. Quand on lui prend la taille ou le menton, elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, 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 un caporal en képi de fantaisie, sans plus trouver Madelon un beau matin, et fou d'amour lui dit qu'elle était jolie, et qu'il venait pour lui demander sa main. Madelon bavait en somme, lui répondit en souriant, et pourquoi prendrais-je un seul homme quand j'aime tout un régiment. Tes amis vont venir, tu n'auras pas ma main, j'en ai bien trop besoin pour leur verser plus vin. Quand Madelon vient nous servir à boire, raconte une histoire à sa façon. La Madelon n'est pas sévère. Quand on lui prend la taille ou le menton, elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, 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 quand Madelon vient nous servir à boire, sous la quenelle, on frôle son jupon, et chacun il raconte une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas célèbre. Quand on lui prend la taille ou le menton, elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon.
Vous êtes toujours à l'antenne de Tu parles d'une histoire sur les ondes de CKIA 88,3. Catherine Ferland avec vous jusqu'à 2 heures. Et je suis toujours en compagnie de Carl Pépin. On vient d'entendre une pièce qui s'appelle La Madelon, interprétée par Lynn Renaud. C'est une version qui a été enregistrée en 1973. C'est une pièce en fait de Louis Bousquet et Camille Robert. Elle doit son succès au chanteur Bach, dont on a entendu une pièce tout à l'heure, qui l'avait popularisée auprès des soldats en permission. On peut dire que ça a été un vrai triomphe. Par la suite, la pièce La Madelon, c'est devenu une sorte d'allégorie de la victoire des troupes françaises. On l'a chantée à toutes les sauces. Alors, Carl Pépin, aujourd'hui, je te reçois aussi dans le cadre du livre que tu viens de faire paraître, un livre qui s'intitule « Au nom de la patrie, les relations franco-québécoises pendant la Grande Guerre 1914-1919 ». Le premier chapitre de ton livre s'intitule « Les relations d'avant-guerre ». Donc, tout ce qui précède, là, vraiment à partir de la fin du 19e siècle jusqu'en 1914, là, à l'orée de la guerre, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de justement de ces prémices-là de la guerre, parce qu'on sait qu'après la conquête de la Nouvelle-France, les liens ont été rompus pendant un certain temps. Il y a eu une reprise des contacts seulement en 1855 avec la visite de la goélette la Capricieuse. Alors, c'était quoi l'héritage de la France ici au Canada? Comment on voyait ça, les Canadiens? C'était encore des Français ou...
C'est une très bonne question, en fait, et comme tu le dis, à l'époque où j'aborde les relations France-Québec pendant la Grande Guerre de 14-18, j'ai cru bon d'établir un premier chapitre sur les relations d'avant-guerre, sans toutefois remonter à la nuit des temps, qui dans notre cas est la conquête de 1763 avec le traité de Paris. En fait, les relations, tu l'as bien mentionné, étaient à peu près coupées. Depuis la conquête, et avec l'apparition du navire de guerre français, la Capricieuse, en 1855, il y a une reprise un peu fragile des rapports France-Québec, rapports qui vont toutefois être confirmés 4 ans plus tard, en 1859, lorsque le consulat de France à Québec ouvre ses portes, et quelques années plus tard, la France à Montréal va ouvrir une autre légation diplomatique. En fait, notre rapport à la France, il est ambivalent, dans la mesure où je crois que, d'une part, il est teinté beaucoup de stéréotypes, donc de certains héritages que la France aurait rester des tics linguistiques, des manières de parler, des manières d'une histoire commune et ainsi de suite. Mais c'est sûr que la France et la société francophone du Québec sont coupées. Par exemple, les moyens de communication sont très faibles à l'époque, mis à part une certaine presse, les nouvelles prennent du temps à arriver. Mais il y a toujours, tant parmi les élites québécoises de l'époque, qu'on appellerait canadienne française, et le peuple québécois, toujours un certain intérêt qui est un peu latent pour la France. La France va susciter de nombreuses réactions à travers les événements de sa vie politique, sociale et culturelle, et les Québécois vont d'une certaine manière réagir. La France s'intéresse peu au Québec. Le français, même cultivé, va relativement s'intéresser assez peu, du moins jusqu'au tournant du 20e siècle. Le Québec est somme toute ignoré. Par contre, le contraire, les Québécois vont s'intéresser un peu plus à la France à travers certains grands événements. Par exemple, lorsque l'armée française subit une terrible défaite lors de la guerre franco-prussienne. Ici même, dans le quartier Saint-Roch à Québec, et j'en parle dans mon livre, on va lever des fonds. Je pense qu'on va ramasser jusqu'à 2 000 $ en argent d'époque pour aider les réfugiés de guerre français. Il y a beaucoup de sympathie. Par contre, lorsque la France crée le régime politique de la Troisième République, qui officiellement est un régime anticlérical, athée, dans un Québec hautement catholique, alors ça va susciter de vives réactions, disons. Alors, les Québécois, autrement dit, avec l'affaire Dreyfus, par exemple, aussi, vont réagir selon les événements. À chaque fois que le pavé parisien ressort et se défait brique par brique, bien les Québécois réagissent en conséquence. Bref, c'est un rapport à l'autre qui est teinté de stéréotypes culturels mélangés avec un certain héritage historique, mais en même temps, on en sait peu sur la France. Et c'est une certaine redécouverte de la société française qu'on va opérer au début de la guerre de 1914.
Oui, oui, oui. Oh, c'est intéressant. Donc, ça passe d'abord, si je comprends bien, par le cadre diplomatique. Donc, tu parles 1859, première... c'est une ambassade,
C'est un consulat.
Un consulat.
Un consulat, oui, tout à fait. Je peux dire rapidement, la manière que la France organise sa diplomatie en Amérique du Nord, et ça inclut la période de la guerre de 14-18, l'ambassade, elle est à Washington. France ne peut pas établir formellement une représentation diplomatique du grade de l'ambassade pour la simple raison que le Canada n'est pas un pays totalement indépendant. C'est Londres qui gère, jusqu'en 1931, notre politique étrangère. Le Québec a encore moins son mot à dire. Mais la France peut par contre établir des consulats. Londres autorise, par exemple, Paris à établir un consulat à Québec et à Montréal. Mais par contre, au niveau de la... Et c'est l'ambassadeur de France à Washington qui est un peu le gestionnaire de la représentation diplomatique française au Canada de l'époque.
Donc, ça passe vraiment par les règles diplomatiques qui vont un peu dicter les relations entre le Québec et la France à l'époque. Puis, donc, outre ces relations plus diplomatiques-là, il y a aussi les rapports commerciaux, parce que j'imagine qu'après après 1855, il doit y avoir justement une reprise des échanges et tout ça. Donc, ça va être quoi la nature de ces rapports-là commerciaux dans le dernier tiers du 19e, puis jusqu'à l'orée de la Grande Guerre, justement?
Ce qu'on retient dans la nature des rapports commerciaux, moi, c'est ce que j'appelle la règle du 1%. C'est-à-dire que, et j'en parle clairement dans un de mes chapitres de mon livre, c'est que les relations commerciales franco-canadiennes, disons, ce qui inclut le Québec de l'époque, ne vont jamais dépasser 1% du volume de chacun des deux pays. Alors, le Canada est un partenaire marginal, si on veut, et la France, pour nous, est également un partenaire marginal. Ça, c'est un premier problème. C'est ce que j'appelle l'or invisible. Dans le fond, les relations commerciales sont très fragmentaires. Le deuxième problème, si on veut, de notre point de vue, c'est que, notre point de vue comme Canadien et Québécois, c'est que le type de marchandises françaises que tu vas retrouver sur les étagères de l'époque, ce sont des produits de luxe. La lingerie, les vins, pour ne nommer que quelques exemples. Et les Français vont essentiellement importer du Canada des marchandises, disons, qui relèvent davantage des matières premières.
Le bois
et le blé en sont les principales. Mais le problème, c'est que au niveau du dédouanement et tout, toutes les marchandises canadiennes ou presque passent par l'Angleterre, qui, elle, les redistribue par la France après. Et c'est la même chose qui va se dérouler pendant la guerre aussi.
Tout un frein, un commerce.
Oui. Et voilà. Donc, si bien que pour la France, ce sont des marchandises britanniques. Alors, le commerce est très, très fragmentaire. Et dernier point, peut-être, sur les étagères québécoises avant la guerre, si vous voulez avoir des produits manufacturés d'Europe, il y a des produits anglais, évidemment, mais le commerce allemand aussi.
Okay.
N'importe quelle marchandise, les conserves, des trucs comme ça, c'est pas la France qui fournit. Étonnamment, c'est l'Allemagne qui est un des... Et aux États-Unis aussi, l'Allemagne est un des gros exportateurs de marchandises manufacturières à l'époque.
Ouf! On n'entrera pas dans le débat de l'étiquetage, mais ça devait être autrement compliqué que la loi 101 actuelle.
C'est ça.
Hey, c'est bon. Avant d'aller avec un peu plus la question du déclenchement de la guerre, on va aller en musique avec une pièce qui s'intitule Le 75. Le 75, en fait, c'était une chanson qui chantait la gloire du canon 75. Écoutez bien les paroles, ça dit « 75, ce mignon petit joujou, ce 75, ce canon-là est un bijou ». Donc, on vante vraiment les qualités de cette pièce d'artillerie-là. C'est tout à fait savoureux. Allons-y.
Mignon petit joujou, 75, ce canon-là est un bijou. Quand il tire, il ne rate jamais son coup. On peut le dire, le 75, ça c'est à nous. Vous avez certainement, messieurs les Allemands, inventé de très colossales machines, avec lesquelles, j'imagine, vous pensiez terroriser les braves sangs. Vos hangars étaient pleins de taupes et de zeppelins, qui tuent si bien les enfants et les femmes. Enfin, comme ultime réclame, vous aviez le 420. Mais nous avons dans tous les cas, n'oubliez pas, 75, ce mignon petit joujou, 75, ce canon-là est un bijou. Quand il tire, il ne rate jamais son coup.
Alors, on écoutait le 75, une chanson qui date de la Première Guerre mondiale, qui était évidemment à la gloire du canon 75. C'est paru sur l'album Chansons historiques de France 1914-1918, et c'est un auteur inconnu en fait. Mais tu me disais pendant la chanson, Karl Pépin, que c'était une arme très répandue à l'époque.
Ah ben oui, mais écoutez, aujourd'hui tout le monde connaît la mitraillette Kalachnikov. C'est un peu l'arme emblématique de tout conflit à saveur de guérilla et de révolution. En fait, à l'époque, tout le monde connaît le fameux canon 75. 15 mm modèle 1897. En fait, c'est ce qu'on appelle rapidement un canon à frein hydraulique. Autrement dit, quand le canon tirait, il y a un effet de recul, mais le canon et son effet restaient en place. Donc, lorsque le tube en tant que tel du canon reprenait sa place, les artilleurs pouvaient mettre un autre obus et tirer à peu près sur le même point. Et c'est un canon à tir rapide, obus très puissant. Alors, ça a été une petite révolution au niveau de l'armement français au début de la guerre. Et la France, c'est peut-être ça qui l'a sauvé d'une certaine manière au début de la guerre. Ils en possédaient en quantité suffisante pour tenter d'arrêter autant que possible les vagues d'infanterie allemande qui déferlaient sur Paris.
Manifestement, ça les rendait très, très contents de posséder cette arme-là. Alors, on est toujours à « Tu parles d'une histoire ». Je vous rappelle que je suis en compagnie de Karl Pépin, Catherine Ferland avec vous encore pour une demi-heure. Alors, Karl, dans ton livre « Au nom de la patrie », il y a un chapitre qui porte sur les enthousiasmes et les espoirs initiaux. Donc là, tu vas vraiment nous parler dans ce chapitre-là du début de la guerre et de certaines illusions qu'on a encore à ce moment-là au niveau des relations et tout ça. Donc, comment on accueille l'annonce du déclenchement de la guerre au Québec en 1914?
D'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est une très bonne question. Les Québécois et les gens en général au Canada savent très rapidement que la guerre est déclenchée en Europe parce qu'à cause des câbles télégraphiques sous les océans et tout,
les nouvelles
se rendent très rapidement. Évidemment, il y a déjà une censure qui s'établit dès le départ, mais par contre, les nouvelles qui filent dans des journaux comme La Presse à l'époque, qui tire à 185 000 exemplaires quotidiennement, La Presse, comme aujourd'hui, c'est un gros quotidien à l'époque, Le Soleil, plus récemment Le Devoir et tout, qui est un plus jeune papier. Les gens le savent très rapidement. Et étonnamment, les gens à l'époque, notamment au Québec, vont accueillir la guerre avec un enthousiasme assez fort. Robert Rumilly, l'historien, disait même que la très française ville de Québec, ici sur la place Youville, il y avait des milliers de personnes presque en délire qui ont accueilli la guerre d'une certaine manière, de façon plus enthousiaste que la très britannique ville de Toronto, par exemple. Alors, voyons un peu le genre. Même Henri Bourassa, qui a été un critique virulent de l'effort de guerre canadien à l'époque, va même accueillir d'une certaine manière la guerre avec un enthousiasme, parce que lui-même se trouvait en France par hasard avec Lormer Gouin, le premier ministre du Québec, au moment où la guerre est déclenchée. Alors, il a vu un peu les manifestations et ainsi de suite. En fait, Bourassa est en Allemagne et Gouin est en France, excusez-moi, mais ils ont été témoins un peu de cette manifestation.
Ils sont vraiment dans le bain,
oui. Parce que les Allemands, les foules allemandes étaient en délire aussi au début de la guerre. Bref, les Québécois de l'époque accueillent la guerre avec un certain enthousiasme. De là s'enrôler, c'est une autre question. question, mais les gens entendent rapidement les nouvelles de France. Par exemple, la destruction des églises, certains crimes de guerre perpétrés par l'armée allemande. Même chose en Belgique aussi, territoire d'invasion de des forces ennemies. Alors, les gens sont très sensibilisés à ça. Ils veulent donner de l'argent, des biens pour venir en aide aux populations de réfugiés franco-belges, par exemple, au début de la guerre. Alors, il y a un entrain assuré. Et bien sûr, il y a toujours une certaine innocence relative. On sait très bien qu'en août 1914, la guerre va être courte. Les gens s'enrôlent par milliers au Canada parce qu'ils savent que, bon, le temps qu'ils se rendent en Europe, ça va être terminé. Alors, c'est sûr qu'on s'enrôle, on donne notre argent, puis de toute façon, la guerre va être finie à Noël. Alors, c'est une bonne nouvelle et on va faire tout ce qu'on peut pour aider la France.
Limite. Alors, voilà. Oui, et tabarouette. Si on savait qu'on s'embarque pour un conflit qui va durer 4 ans à ce moment-là, ouh là là. Quand on s'intéresse justement à la question de la Première Guerre mondiale, il y a le terme de l'entente cordiale qui ressort. Peux-tu nous expliquer de façon simple, parce que moi, je suis pas une historienne de la guerre du tout et je dois avouer bien humblement que c'est quelque chose qui m'échappe. Peux-tu nous expliquer ce que c'est l'entente cordiale?
L'entente cordiale, c'est une alliance politique et militaire essentiellement qu'ont conclu la France et la Grande-Bretagne en 1904. En fait, c'est les Français et les Britanniques ont toujours eu des griefs historiques pour toutes sortes de raisons, mais dans le contexte de la montée de la puissance allemande sur le continent européen, l'Allemagne s'industrialisait, son armée prenait de plus en plus de puissance à un rythme effréné en fait au début du siècle, si bien que la France et l'Angleterre se sont rapprochés, ils ont conclu une entente à l'amiable si on veut, c'est une alliance formelle dans le fond en cas de guerre contre l'Allemagne. Et l'entente cordiale a pris de l'expansion en 1907 lorsqu'on a conclu une triple entente qui incluait cette fois la Russie. Ah. Et certains gens au Canada, et j'en parle brièvement dans mon livre, croyaient qu'entre les communautés francophones du Canada, qu'on associait par extension à la France, et entre les communautés anglophones, qui beaucoup étaient nées dans les îles britanniques, on pourrait reproduire une mini-entente cordiale à l'échelle canadienne. Alors, voyons un peu, dans le fond, l'entente cordiale, c'est le rapprochement entre la France et l'Angleterre en prévision de la guerre qui s'est conclue officiellement en 1904.
Et puis après tout, c'est deux nations qui ont une historique très lourd de conflits. Là, ça remonte pratiquement au Moyen Âge.
Tout à fait. C'est une entente révolutionnaire pour l'époque. C'était quelque chose de très inattendu, en fait, parce que quelques années auparavant, la France et l'Angleterre se querellaient au point d'en venir presque à la guerre pour des colonies en Afrique. Et moins d'une décennie plus tard, on concluait une alliance qui, implicitement, était carrément dirigée contre l'Allemagne.
Puis, qui étaient les artisans de cette entente-là? Parce que j'imagine que ça a dû passer par des hommes politiques. C'est souvent des projets qui sont portés par des gens.
Ah, tout à fait. Par exemple, en France, il y a eu le ministre des Affaires étrangères, Théophile Delcassé, pour ne nommer que celui-ci, qui a travaillé ardemment à ça. Mais évidemment, on sentait dans les milieux politiques et économiques de l'époque que l'Allemagne était l'ennemi à abattre. Par exemple, la marine de guerre allemande se construisait à un rythme effréné. Ça a beaucoup effrayé l'Angleterre. L'armée allemande sur le continent, c'était 1 million d'hommes. Et le principal pays qui aurait été capable de l'arrêter, c'est l'armée française. Mais pour ça, tu as besoin du partenaire britannique. Alors, il y avait un contexte. La table était mise pour créer cette entente-là. C'était une question de nécessité, après tout.
Ouais, pour se défendre de l'Allemand.
Voilà.
Puis, au niveau des Canadiens français comme tel, vraiment ici, dans la vie quotidienne de tous les jours sur le terrain, comment les gens entrevoyaient l'idée de se battre, en quelque part, pour la France? Comment on allait les solliciter? Quels arguments on allait invoquer pour dire aux Canadiens français, allez faire votre effort de guerre pour la patrie? Est-ce qu'on les sollicite au nom d'une identité d'origine française? Comment ça a fonctionné au départ?
La propagande au Québec s'est déroulée au départ de manière très hasardeuse, disons. C'était, pour employer une expression québécoise, très broche à foin, disons. Dans la mesure où, comment tu peux convaincre des francophones qui sont coupés depuis 150 ans avec à peu près aucun lien avec la France d'aller... tu peux pas leur dire directement, allez vous battre au nom de la France. Qu'est-ce que ça implique? Allez-vous combattre dans l'armée française, à supposer que la France veut vous accueillir dans son armée? Qu'est-ce qu'on fait? Et il faut pas oublier une chose, c'est que dans les scandales qui ont marqué l'histoire de la Troisième République, l'histoire politique française, entre autres l'affaire Dreyfus, les lois antireligieuses de 1905-1906 qui ont eu des grosses répercussions au Québec, la séparation de l'Église et de l'État, sans reprendre le débat sur la charte des valeurs qu'on connaît aujourd'hui au Québec, mais ce débat-là, la France l'a fait il y a 100 ans, et ça a eu des répercussions terribles au Québec. Les Québécois détestaient la France athée. Et évidemment, notre Église, à l'époque, entretenait cette haine-là anti-française. Alors, souvent, on disait aux gens, faites un effort de guerre, parce que la France est en train de vivre un réveil religieux. La France pris à nouveau, d'une certaine façon.
Ah.
Allez vous battre pour l'ancienne mère patrie aussi, on leur disait, parce que si la France perd la guerre, c'est toute la civilisation française, qui incluait le Québec, évidemment, qui serait menacée d'extinction. Bref, mais c'était quand même difficile de convaincre les Québécois de l'époque d'aller se battre pour une France qu'on connaissait mal. Nos élites la connaissaient assez bien, on pense à Henri Bourassa, entre autres, mais même ces gens-là étaient beaucoup critiques par rapport à ça. Alors, convaincre des gens d'aller se battre pour la France, c'était quelque chose de très hasardeux. Et ce qui n'a pas aidé non plus, c'est que notre armée canadienne à l'époque n'intégrait pas bien les francophones non plus. Alors, mais ce qu'on peut noter, cependant, c'est qu'au moment où la France entre en guerre, la France mobilise ses armées. Il y a le service militaire obligatoire. Mm-hmm. Et les quelques 5000 Français mâles résidents du Canada et en âge de porter les armes étaient conscrits automatiquement.
Ah, okay.
Parce qu'ils étaient des réservistes de l'armée française. Alors, dans les rues de Montréal, les gens sont venus par milliers applaudir les réservistes français qui devaient abandonner leur famille au Canada pour aller faire leur service militaire en France.
C'est assez
Alors, voilà. Donc, tous ces éléments-là mis ensemble ont fait que la France a réussi, au départ, à développer des sympathies. Mais de là à convaincre les Québécois d'aller s'enrôler, il n'y a personne qui venait s'enrôler au bureau de recrutement à Montréal en disant « Je m'enrôle pour sauver la France. » À part Olivier Asselin, peut-être qu'il le fait, mais pour le reste, non.
C'est assez, oui. Mais on essayait de soutenir l'effort par d'autres moyens. Il y avait des souscriptions populaires, là, des genres de levées de fonds, finalement. Mm-hmm. Pourrais-tu nous parler de ce qu'on appelait le Fonds patriotique canadien, le Comité France-Amérique aussi? C'était des organismes...
L'État prenait très peu en charge toute l'organisation de la propagande au Canada pendant la Première Guerre mondiale, si bien que c'est ce que j'appelle des organismes semi-officiels qui ont dû prendre le relais. Ce que tu mentionnes, le FPC, le Fonds patriotique canadien, était une organisation en fait qui remontait à la guerre de 1812. Donc, c'était une organisation bien établie qui consiste essentiellement en des philanthropes, des gens de la haute société, finalement, riches, anglophones, ici chez nous, anglophones de Montréal, qui essentiellement levaient des fonds par diverses campagnes de souscription pour venir en aide aux familles des soldats mobilisés.
Aux familles, ça, aux familles, c'est bien important.
Essentiellement. Il y avait des règles très strictes. Par exemple, si un citoyen canadien s'enrôle volontairement, et qu'il laisse une famille derrière lui, bien le Fonds patriotique va donner à sa femme et à ses enfants, le cas échéant, un certain montant par jour. Et là où ça m'intéresse, c'est que le Fonds patriotique a accepté d'aider les familles des mobilisés français et belges aussi au Canada. Et il y avait des enquêtes. Donc, par exemple, si toi, tu me dis, j'ai trois enfants, mon mari s'est porté volontaire ou mon mari est français, il a été mobilisé parce que c'est la mobilisation obligatoire en France, bien, tu peux t'enregistrer, tu leur dis, bon, tu vas avoir, 20, dans le temps, c'était 25 sous par jour pour la femme et 10 sous pour chaque enfant. Alors, voilà.
Toute une allocation.
Donc, ça fait à peu près... toi, si tu me dis j'ai trois enfants, ça va peut-être faire un peu plus d'une demi-pièce par jour. C'est pas beaucoup, mais en même temps, mais c'était quand même appréciable pour l'époque.
Ben oui.
Quand on sait que le salaire d'un ouvrier à Montréal est environ $1 par jour en 1914, c'était un peu comme une assurance-emploi, d'une certaine façon.
Oui.
Alors, voilà. Et tu me parlais du Comité France-Amérique. Le Comité France-Amérique existait avant la guerre. C'était une organisation qui était culturelle de rapprochement franco-québécois, franco-canadien. Et lorsque la guerre commence en 1914, le Comité France-Amérique, qui était en partie subventionné par le gouvernement français, entre autres avec des personnalités de marque, sont venus en aide par différentes activités. Du financement, ils ont collaboré aussi avec le Fonds patriotique canadien et ils faisaient de la propagande, évidemment, pro-française et pro-canadienne à l'époque.
Donc, ça mobilise énormément de monde, ça. Il y a tout un réseau comme ça qui va s'activer au niveau de la diplomatie et tout ça.
Oui.
Avant d'aller plus loin, justement, dans les contributions peut-être plus sociales à l'aspect militaire, on va écouter une pièce qui s'intitule « Vive l'oncle Sam », parce que effectivement, l'oncle Sam, ou plutôt les États-Unis, vont être impliqués à partir dès tout le début du conflit aussi.
En fait, officieusement, oui, et officiellement en avril 1917.
1917. Donc, la pièce qu'on écoute est justement une pièce de 1917. En fait, une interprétation qui date d'un peu après, mais voilà, l'oncle Sam.
Partant pour la guerre, famille d'Angleterre, chantez le joyeux Tipperary. La belle République, la grande Amérique, à son chant de victoire elle aussi. Tous ces soldats magnifiques viennent de lancer ce cri. Le plus joyeux refrain, c'est mon oncle Sam, Sam, Sam qui vient d'Amérique. Le plus grand citoyen, c'est mon oncle Sam, 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 il est sympathique. Sam, vive la République. Quand on s'avait contre eux, les Américains, Américains. Et quand ils défilent à travers la ville, en chantant ces couplets entraînants, leur violence éflamme et tous les petits fameux, leur rendent baisés sont les suivants. La foule partout les acclame, et d'un air triomphant, on se refrain, ce refrain, c'est mon oncle Sam, Sam, Sam qui vient l'Amérique, chanteur et musicien, c'est mon oncle Sam, 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 il est sympathique, pour le long du chemin. C'est mon oncle Sam, 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 qui la République. Chantons avec entre eux, les Américains, Américains. À cette jeune armée, les nations alliées, envoient leur plus fraternel salut. Et tous nos caproches, aujourd'hui, colbonneux, qui s'emparent de ces nouveaux poilus. Papa, partez pour les poches, Guillaume de Foudé. Notre meilleur copain, c'est mon oncle Sam, Sam, Sam qui vient d'Amérique. La terreur des Germains, c'est mon oncle Sam, Sam, Sam qui vient d'Amérique. La victoire de ce monde, c'est mon oncle Sam, Sam, Sam qui vient de la République.
Vous êtes toujours à l'antenne de Tu parles d'une histoire sur les ondes de CKIA 88,3 et au www.ckiafm.org. Catherine Ferland avec vous pour encore une quinzaine de minutes et je suis toujours en compagnie de Carl Pépin, historien militaire. On vient d'entendre une pièce qui s'appelle Vive l'oncle Sam et justement dans cette pièce-là, on chante l'intérêt d'avoir des alliés très forts et très puissants. Justement, l'armée française est venue ici en terre québécoise pendant des missions militaires particulières et on sait que l'armée française va notamment défiler au Québec. Il y a des gens qu'on appelait, bon, les chasseurs qui viennent à Montréal. Il y a la Légion étrangère aussi. On vient faire un peu de la représentation, mais qu'est-ce qu'on vise exactement par ces grands défilés-là?
C'est exactement la question que les gens se posaient à l'époque. On ne sait pas.
okay.
En fait, ben, c'est sûr que pour un historien en défense de soutenance de thèse, tu dis pas « je ne sais pas », mais c'est un peu ça quand je m'explique, quand tu fais de la recherche, tu t'en rends compte, c'est que lorsque la France dépêche des gens au Québec, que ce soit des généraux, des propagandistes qui sont officiellement sous la feuille de paye de l'armée française, qui sont des militaires ou carrément des détachements militaires au complet, les gens de l'époque, à commencer par Henri Bourassa et d'autres plus critiques, savaient jamais si, parce qu'il faut se remettre dans le contexte de la crise de la conscription au Québec, surtout en 1917-18, on sait jamais si ces visiteurs, entre guillemets, viennent faire du recrutement pour que les Québécois s'enrôlent dans l'armée canadienne, ou c'est seulement des visites de courtoisie pour informer sur la France en guerre. La France va officiellement adopter parce qu'il y a deux manières de faire de la propagande. Une propagande directe et indirecte. La propagande directe, c'est un peu comme l'Allemagne faisait aux États-Unis pour convaincre l'opinion publique que nous n'avons jamais voulu la guerre, nous sommes les bons là-dedans et tout. Alors voilà. La France, elle, va plutôt opter pour une propagande indirecte, une propagande informative qui dit essentiellement, voici ce que nous faisons, voici l'héroïsme de notre armée, l'héroïsme de nos populations, la destruction de nos églises, nous sommes les victimes. Alors la France, de par ses visiteurs au Québec, est toujours veut se percevoir auprès des Canadiens français comme un peuple qui, dans le fond, lutte pour sa survie, pour la civilisation. Mmh. Et c'est un peu le message que vont porter les différents groupes de militaires qui vont venir au Québec. Par exemple, on pense à l'émission pilotée par le journaliste Eugène Dutoit, qui était de l'Université catholique de Lille, l'Université catholique de Lille, qui est venue au Québec en 1917, en fait, sous l'égide du comité de catholique de propagande française à l'étranger, qui était piloté par le ministère des Affaires étrangères en France.
Sous couvert de ce réveil religieux.
Exactement, tout à fait. En fait, c'est une propagande par des catholiques, pour des catholiques.
Mm-hmm.
Et ces gens-là vont venir dire, dans le fond, que voici la France très chrétienne, la France de Jeanne d'Arc fait une lutte héroïque, et voici le message que nous portons à vous, les Québécois, nous défendons. Ils vont pas dire enrôlez-vous pour venir défendre la France, mais on sent que dans le message, c'est ça. C'est un peu la même chose lorsque la France envoie certains de ses bataillons, comme les régiments d'élite, on pense aux chasseurs alpins ou aux fameux régiments de la Légion étrangère. Les soldats pris individuellement, ce sont des soldats, c'est pas des propagandistes, mais pris comme organisation militaire, lorsqu'ils défilent dans les rues de Québec ou Montréal avec leur drapeau bardé de médailles et tout, les épées au clair, baïonnettes au canon, évidemment, le but est d'impressionner. Même chose lorsque le célèbre maréchal de France, Joseph Joffre, vient à Montréal au printemps de 1917, c'est davantage pour s'afficher, faire de la propagande. Mais en aucun moment, ces gens-là ne vont se risquer sur le terrain pour dire qu'on fait du recrutement direct. D'ailleurs, les conseillers politiques français de l'époque avaient clairement avisé le gouvernement de ne pas s'aventurer sur cette avenue-là parce que ça serait suicidaire pour la France. Quoique certains auraient voulu que la France fasse une propagande plus directe, mais elle ne va jamais s'aventurer là-dedans.
Parce que justement, l'aspect conscription, c'est un élément extrêmement sensible.
Oui.
Je pense que les Canadiens français, au départ, ne veulent rien savoir d'être enrôlés de force.
C'est ça.
D'ailleurs, la conscription, je pense, va entraîner une augmentation des tensions franco-québécoises.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe avec ça?
Ce qui se passe, c'est que, comme je disais un peu tout à l'heure, il y a une certaine part d'hypocrisie de la part de certains intellectuels français. Et on peut pas les blâmer d'une certaine façon, mais 100 ans plus tard, on peut se permettre de faire un certain constat, en fait, et je le fais dans mon livre, c'est que officiellement, lorsque les Français sont en visite au Québec, je parlais tantôt d'Eugène Dutoit, il y a d'autres propagandistes célèbres comme Henri Dollard, Charles Tellier de Pongeville, François Veillot, pour ne nommer quelques-uns. Ces gens-là vont toujours venir au Québec, ils vont aller à Québec, ils vont aller à Saint-Anne-de-la-Parade, ils vont aller au lac Saint-Jean, ils vont aller partout.
Des vraies tournées régionales.
Des vraies tournées du Québec, c'est ça, pour faire un plaidoyer en faveur de la France victime de la guerre. Par contre, lorsqu'ils reviennent chez eux, je pense entre autres à François Veillot sur le bateau qu'il ramène en France à l'été de 1918, il va dire clairement à ses patrons, les gens du ministère des Affaires étrangères au Quai d'Orsay à Paris, que j'ai fait mon possible. Je suis allé dire aux Canadiens français que nous, les Français catholiques, nous faisons notre possible dans cette lutte. La France mène son armée mène un combat héroïque. Mais sérieusement, là, les Québécois, ils font pas grand-chose. Ils sont victimes de leur égoïsme provincial. Et Henri Bourassa fait un travail épouvantable. On se demande s'il est enrôlé par l'Allemagne pour faire la propagande pour l'Allemagne. Si bien même que Il y a un quotidien allemand qui a eu vent de ça et a écrit en allemand, un quotidien à Berlin pendant la guerre, que nous, le gouvernement allemand n'avait pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour faire de la propagande au Canada. Henri Bourassa le fait très bien. Alors, voyez un peu, c'est ça. Mais les Français sont frustrés, sauf qu'il y a un auteur, à un moment donné, qui s'appelle Philippe Millet, dans un journal régional en France, qui va carrément dire que le Québec n'a pas marché, n'a pas fait son devoir. Et évidemment, il va se faire répondre par les intellectuels de l'époque. Et je dirais même que ces débats-là acrimonieux vont se poursuivre dans la période de l'entre-deux-guerres ensuite. Ça va s'étirer jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Certains écrivains français accusent carrément le Québec de ne pas avoir fait son devoir.
Parce que c'est sûr que c'est un élément sensible. On sait que ça va avoir beaucoup d'impact sur la vie quotidienne nécessairement, si on s'enrôle. Avant d'en discuter de façon un peu plus approfondie, on va aller en musique avec une dernière pièce. La chanson de Craon, qui date elle aussi de 1917, donc la chanson de Craon.
Quand au bout de 8 jours, le repos terminé, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous, on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au sifflot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. c'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craon, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. 8 jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, nos petits chasseurs viennent chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craon, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font leur foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres pauvres puritains. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qui ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, montez sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau.
Toujours à Tu parles d'une histoire pour encore quelques minutes. Catherine Ferland avec vous, en compagnie aujourd'hui de Carl Pépin. On écoutait la chanson de Craon qui était interprétée par Éric Amado sur un disque 33 tours. On l'entendait avec le petit grichou-grichou, là. Histoire de France par les chansons, éditée en 1974. La chanson de Craon, d'ailleurs, c'est une chanson antimilitariste qui a été écrite en 1917. Elle a été chantée par les soldats qui se sont mutinés. Donc, dans plus de 60% des divisions de l'armée française, il y avait des mutineries. Je vois Carl Pépin qui opine qui dit oui, c'est ça.
Ça ressemble à ça, oui.
Oui, puis on sait que c'était des offensives, des fois, qui étaient très, très meurtrières au niveau des gens. Puis, il y avait ce type de chansons-là qui circulaient. Finalement, on écoutait bien dans les paroles. On n'était pas très contents de cette guerre-là. Hein? Parce que, justement, quand on aborde la question de la guerre, Carl Pépin, c'est qu'il y a cette manière dont on vit la guerre sur le front, mais aussi au quotidien. Il y a quelque chose quand même qui se passe. Comment on vivait ça au quotidien?
Les relations France-Québec pendant la guerre de 14-18 au quotidien font l'objet du cinquième chapitre de mon livre, en fait. Ce que je fais, en fait, j'essaie d'avoir, à travers les différentes manifestations socio-culturelles et propagandistes, dans quelle mesure les élites françaises et québécoises de l'époque, et c'est un peu la problématique d'ensemble de mon ouvrage aussi, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là, pour mobiliser l'intérêt à tous des Canadiens français? On pense, par exemple, à Exposité. Tout le monde connaît ça ici à Québec. Oui. C'était l'exposition agricole provinciale qui est née vers 1911-1912. Donc, c'est un jeune événement à l'époque. Par exemple, des gens comme Cyril Delage, qui était le président de l'Assemblée législative, ont fait venir des objets militaires de l'époque, des mitrailleuses, des uniformes de l'armée française, seulement pour essayer d'impressionner les gens de la place et pour les convaincre de s'enrôler. Donc, il y avait différentes manifestations comme ça. On pense entre autres au 14 juillet, la fameuse célébration du 14 juillet française, qui était répercutée au Québec par la colonie française, donc les Français qui habitaient ici. Ça attirait toujours les foules locales. Les gens venaient donner un peu d'argent pour les familles des soldats mobilisés. Bref, on se rassemblait autour de ça.
C'est un défilé?
Il y avait des défilés. On pouvait venir serrer la main des personnalités, des notables de l'époque, notamment le consul de France, à Québec, qui avait un fils lui-même qui se battait en Europe. Le consul de France à Montréal rencontrait les gens. Par exemple, en 1918, on crée un événement qui s'appelle la Foire montréalaise, où les personnalités de l'époque, Wilfrid Laurier, entre autres, Lomer Gouin, le premier ministre, avec les représentants français, vont organiser des jeux, des cabarets, ils vont faire tirer des bicyclettes, des jouets pour les enfants. Tout ça pour un peu mousser la propagande française. Alors, c'est des événements comme ça au quotidien qui se répètent régulièrement pendant la guerre.
Ah, parce que ton livre s'intitule « Au nom de la patrie ». C'est aussi le titre que tu donnes à ton sixième chapitre, parce que, dans le fond, tout le monde n'est pas d'accord avec le rôle que devait jouer le Québec dans cette guerre-là. Justement, j'aimerais ça que tu nous parles des divergences d'opinion que tu as relevées chez les intellectuels canadiens-français. Tu parlais tout à l'heure, bon, de gens comme Olivier Asselin, Raoul Dandurand, qui ont eu quand même beaucoup de poids dans l'opinion publique, je pense.
Tout à fait, ouais.
Comment tu résumerais les principaux camps là, de ces, ben, ces penseurs-là?
Les principaux camps, d'abord, d'une part, ils sont minoritaires, on les appelle les francophiles. On pense à Raoul Dandurand, entre autres, et à Olivier Asselin à partir de 1916, au moment où ils s'enrôlent. Ça, c'est des gens qui sont pro-France. C'est des gens qui incitent les Québécois à s'enrôler, que ce soit dans l'armée canadienne ou ailleurs, mais il faut aller se battre en France pour la France. Ça, c'est un camp qui est minoritaire. Il y a un camp qui représente, disons, la plus grosse majorité des gens, ceux qui n'ont pas d'opinion fixe. Certains aiment la France parce qu'elle mène un combat héroïque. On va donner de l'argent, des vêtements pour venir en aide aux populations. Mm-hmm. C'est un camp qui est organisé essentiellement autour de l'Église, notamment le bas clergé. Et il y a un troisième camp qui est quand même assez fort autour d'Henri Bourassa, donc qui est contre carrément, qui sympathise toujours. Il n'y a personne qui va être contre le combat héroïque que mène la France, mais certains gens disent qu'il faut défendre davantage les intérêts du Canada.
C'est plutôt sur l'implication des Québécois.
Exactement.
Qu'on va être contre. Là,
c'est ça. On peut donner un support moral parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, certains Canadiens français en Ontario, notamment, ne peuvent pas aller dans leurs écoles en français avec le fameux règlement 17, par exemple.
Oui.
Ça, c'est un débat qui est de politique interne canadien qui est assez terrible à l'époque. Alors, certains disent, avant d'aller se battre pour la France, commençons par régler
nos
problèmes ici.
Ah, oui.
Alors, c'est les trois camps qu'on peut remarquer, disons, à l'époque.
Ah, fait que c'est ça, ça a divisé beaucoup l'opinion publique.
Tout à fait,
et
oui.
Tout ça. Eh bien, un grand merci, Carl Pépin. Ça a été un plaisir de te recevoir à l'émission. Donc, ton livre, je le rappelle, s'intitule « Au nom de la patrie, les relations franco-québécoises pendant la Grande Guerre 1914-1919 ». Ça vient de paraître à la Fondation littéraire Fleur de Lys. C'est une maison d'édition qui est basée à Lévis. Alors, le livre est disponible directement sur le site web de l'éditeur à l'adresse Manuscrit Dépôt, sans accent bien sûr, donc manuscritdépôt.com. Alors, félicitations, Carl, et bonne suite.
Parfait. Bien, merci, Catherine, de m'avoir reçue. Merci beaucoup.
Je t'en prie. Et la semaine prochaine, j'aurai le plaisir de recevoir Anna-Laura Baz et Mélanie Lanouette, qui sont toutes deux du Musée de la civilisation. On va jaser des rapports entre l'histoire et la muséologie à l'heure où les nouvelles technologies vont venir rendre possible de nouvelles formes de mise en valeur des objets, mais aussi des savoirs qu'on a développés autour de la culture. Alors, soyez là, c'est un rendez-vous. Alors, c'était Catherine Ferland au micro, Gérald Daoué à la mise en onde. Bye tout le monde!
Présenté du 5 au 30 novembre au Théâtre de l'Abordée en coproduction avec la Compagnie dramatique du Québec, la pièce Frontières transporte le public dans un monde dur, cruel où se font face espoir et résignation, sacrifice et remords. Toute nouvelle création d'Isabelle Hubert, l'auteur y dépeint la vie de personnages en fuite dans l'errance et la clandestinité.